9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, tiens, c'est presque le nom de la chaîne santé d'un de nos invités ce matin. Alors nous avons Ibtissem Belmadani qui est là. Bonjour Ibtissem.
Bonjour, bonjour Philippe, bonjour à tous.
Masseur kinésithérapeute libéral.
Tout à fait.
Et vous nous présentez ce matin Vincent Mellet. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors vous êtes masseur kinésithérapeute, ostéopathe et enseignant en école de kinésithérapie et animateur de la chaîne YouTube qui s'appelle La Chaîne Santé.
Absolument.
Vous avez la double compétence, comme on dit, hein, ostéo, kiné, ça fait partie des mots qui déchaînent les passions dès qu'on les met côte à côte. Vous êtes schizophrène, il y en a un qui traite une partie des pathologies, l'autre qui traite l'autre partie des pathologies.
C'est de moins en moins séparé.
Oui.
C'est de moins en moins séparé. À l'époque, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, il y avait une espèce de guerre de chapelle qui existe encore un petit peu, mais aujourd'hui, c'est de moins en moins séparé. Plus en plus, ce sera, je pense, dans les 10-15 prochaines années, regroupé sous la même casquette.
C'est-à-dire qu'il y a moins d'animosité entre les kinés et les ostéos aujourd'hui ?
Ibtissem ? Non, il n'y en a pas. Enfin, moi, je travaille avec des kinés, des ostéos, des ergos, enfin, toutes les professions de santé. Et non, il n'y a pas d'animosité. À partir du moment où les gens sont de bon sens.
Mmh. Comment vous est venue l'idée de faire votre propre chaîne santé, Vincent ?
Moi, je suis parti du principe que la plupart du temps, la souffrance ou les problèmes de santé viennent de l'ignorance de comment ça fonctionne, de comment le corps fonctionne, de comment le psychisme fonctionne, de comment les deux interagissent, qui il faut aller voir, quand il faut aller le voir. Cette ignorance-là, on la voit tous les jours dans nos cabinets.
Exactement.
Les patients qui sont en errance thérapeutique ou qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et n'ont pas forcément accès à la connaissance. Et ça méritait d'être vulgarisé, démocratisé.
Mmh. Qui n'ont pas accès et qui pourtant rencontrent des praticiens de santé. Parce qu'en fait, l'information, même s'ils ont des consultations, ne leur est pas forcément transmise de sorte qu'elle soit audible et compréhensible pour eux.
Mmh. Mais vous donnez par exemple beaucoup de choses à faire soi-même devant vos vidéos. Par exemple, comment se débloquer la mâchoire entre autres, ou
j'essaie de faire plusieurs formats, des formats où c'est un peu comme des tutos où j'explique des astuces pour se détendre, des astuces pour diminuer une douleur, des astuces hein, à travers des exercices, ou alors de la connaissance pure, c'est-à-dire je pose une problématique qui est est-ce qu'il vaut mieux aller voir un psychiatre, un psychologue ou un psychanalyste ? Est-ce que il vaut mieux aller voir un ostéopathe ou un kiné ? Que faire avant une séance de kiné, etc. Et je réponds à la problématique en une petite dizaine de minutes.
Alors on va commencer par parler des maux de tête. Est-ce que les gens viennent vous voir et vous consulter parce qu'ils ont des maux de tête ou ils viennent vous consulter pour autre chose ?
En général, personnellement, c'est plutôt pour autre chose. Peut-être toi, non, parce que tu as cette spécialisation vraiment autour de la tête. Moi, ça va être plutôt pour autre chose. Étant spécialisée en maxillofacial, on va plus venir me voir parce que on a vraiment une douleur cervicale ou bien parce que on a la mâchoire un peu crispée, etc. Et de là, en posant les bonnes questions, en faisant un bon interrogatoire, on s'aperçoit qu'en fait, la plus grosse des gènes, c'est le mal de tête.
C'est un symptôme.
Oui.
La grande majorité des causes de consultation chez les kinésithérapeutes et les ostéopathes, c'est la douleur et ou le handicap. C'est-à-dire l'incapacité de faire certaines choses.
Dans le quotidien, oui.
Donc, d'une manière générale, les maux de tête, on va dire que c'est considéré comme de la douleur. Et on peut quand même assez vulgariser en disant que les gens viennent nous consulter pour des douleurs ou pour du handicap.
Mmh. Alors, avoir mal à la tête, ça veut tout dire et ça veut rien dire.
Oui.
Et il faudrait peut-être préciser ce qu'on met derrière ce mal de tête, Vincent.
Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'il existe deux grands types de maux de tête qu'on va appeler des céphalées, parce que c'est le juste mot pour dire maux de tête. Les maux de tête primaires et les maux de tête secondaires. Les céphalées primaires et les céphalées secondaires. Les céphalées secondaires, ce sont des céphalées qui sont liées à une ou plusieurs causes qui sont des pathologies. Là, il faut soigner la pathologie. Si vous avez eu un coup de batte de baseball dans la tête, si vous êtes tombé, si vous avez eu un accident de voiture, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral, il y a de fortes chances que si les maux de tête se déclenchent une semaine après, que ce soit lié à ces problèmes. Donc on va traiter ce problème. Et sinon, il y a des maux de tête primaires. Donc les migraines, les céphalées de tension. Et là, justement, il va falloir traiter le mal de tête en tant que symptôme, en tant que pathologie.
Mmh. Et là, il y a beaucoup d'errance thérapeutique hein, pour les gens qui ont mal à la tête. Et donc, vous, ce qui vous intéresse, c'est de poser le bon diagnostic.
Oui,
comment est-ce qu'on fait un bon diagnostic pour ce qui concerne le bon mal de tête ?
Eh bien, on va essayer d'être le plus rapide, le plus clair possible avec une série de questions. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse ou l'examen clinique ou le questionnaire. On va poser une série de questions qui vont donner des signes qui sont particuliers à une pathologie. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez mal d'un seul côté de la tête, d'une durée de moins de 2-3 jours, que la douleur est fait un petit peu comme un battement dans votre tête, qu'il y a des signes associés, des nausées ou une espèce de vomissement ou de malaise, etc. Ce sont des signes qui sont indicateurs d'une crise migraineuse, ce qui n'a rien à voir avec un autre type de céphalée. Et si c'est très important d'avoir un bon diagnostic, c'est que sans bon diagnostic, on ne peut pas proposer un bon traitement. Si on se trompe de diagnostic, eh bien, on peut se tromper de traitement.
Et encore que entre le diagnostic et le traitement, c'est pas forcément direct.
C'est pas forcément direct, c'est parce ça. Que parfois il peut manquer des informations pendant le questionnaire. S'il y a des doutes, s'il y a besoin de savoir plus de choses, il faut à ce moment-là, parfois, dans certains cas, faire des examens complémentaires. Si on a un doute sur le diagnostic et donc un doute sur le traitement, parfois les examens complémentaires peuvent être utiles.
Notamment dans le cas de maux de tête qui sont mixtes, c'est-à-dire qui vont à la fois être migraineux, à la fois être autres. Et en fait, on y va en gros à tâtons au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure de la réaction du patient aux soins qu'on a effectués, voir ce qu'on va prodiguer par la suite.
Mmh. En gros, quels sont les quatre types de maux de tête les plus fréquents, Vincent?
C'est la migraine et la céphalée de tension. C'est les deux grands types les plus fréquents. Mmh. Après, on a les céphalées cervicogéniques et les algies vasculaires de la face. Ça, c'est dans la liste, en statistique, en pourcentage, en fréquence d'apparition, les quatre types les plus fréquents.
D'accord. Donc là, on a en gros 90% des maux de tête qui sont dans ces familles-là.
Ouais, même 90% des maux de tête, c'est des céphalées de tension et des migraines.
Mm-hmm. D'accord. Mm. Bien. Et alors, comment est-ce que vous les prenez en charge et quel est l'intérêt, finalement, d'aller vous consulter, vous, quand on a des maux de tête?
Moi particulièrement, pas grand chose, mais il faut juste trouver quelqu'un qui connaît, en fait. C'est très important de trouver un praticien, d'abord un neurologue, parce que c'est le neurologue qui est vraiment apte à donner un diagnostic, à poser le diagnostic, à le tamponner, entre guillemets. Nous, en tant que kinésithérapeute, on n'a pas le droit de donner un diagnostic. Mmh. On peut suggérer ou y réfléchir, mais on n'a pas le droit de donner un diagnostic au patient. Le diagnostic, c'est le médecin.
Donc, on peut l'orienter. Donc,
c'est ça que vous voulez dire. De manière précoce, on l'oriente, on le dirige vers le bon praticien, justement, pour diagnostiquer ça. Mmh.
Les examens, ça sert à quelque chose? Par exemple, l'IRM, est-ce que c'est utile quand on a en cas de maux de tête?
Rarement.
Très rarement.
Oui.
C'est très rarement utile parce que ça, pour deux raisons. Ça peut inquiéter le patient. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des découvertes fortuites, c'est-à-dire que si aujourd'hui, moi, je passe une IRM cérébrale, il y a, je crois, 2% de chance que j'ai une tumeur, et il y a une dizaine de pourcents de chance que j'ai déjà eu un accident vasculaire sans symptômes. Mm. Et donc, si moi, je passe une IRM cérébrale alors que je n'ai pas de maux de tête, ou alors que j'ai des maux de tête, mais que l'examen ne va pas m'aider dans le diagnostic ou dans le traitement, eh bien, je vais être très inquiet des résultats. Donc, ça va me créer de l'anxiété en plus. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que la plupart du temps, les résultats de l'IRM n'influencent pas ni le diagnostic ni le traitement. Dans 97% des cas, ça n'influence pas. Donc, c'est une étape inutile qui peut créer de l'anxiété.
Mmh. Alors, dans ces cas-là, quels sont les examens complémentaires qui sont utiles en cas de maux de tête?
Et il n'y en a quasiment pas.
Ce qui est utile, c'est surtout de laisser le patient exprimer sa douleur, sa gêne, et de nous, de ce qu'il dit, en fait, déduire ce qui est utile pour lui, comme traitement et comme adaptation au quotidien. Mmh. C'est surtout ça qui est utile. Parce que finalement, le patient, il arrive avec il dit j'ai mal à la tête. Ce qui le gêne, c'est qu'il est gêné dans son quotidien. C'est pas tant de savoir exactement ce que c'est. C'est surtout que son quotidien soit amélioré.
Mmh. Alors, quand on parle de maux de tête, on oublie trop souvent la mâchoire, de quoi la mâchoire peut-elle être la cause, Ibtissem?
Notamment dans le cas de...
C'est votre spécialité, ça, la mâchoire.
Oui, c'est ça, la maxillofaciale, c'est ça. Chez des personnes qui vont être, par exemple, très anxieuses, notamment, on peut trouver des personnes qui ont une forme de bruxisme, c'est-à-dire qu'ils serrent très fort les dents ou ils grincent des dents. Vous avez des personnes également qui, juste parce qu'elles n'ont pas une bonne occlusion dentaire, vont mastiquer toujours du même côté, donc du coup créer des tensions sur l'articulation temporomandibulaire d'un côté par rapport à l'autre.
L'ATM.
Oui, exactement. C'est ça, l'articulation temporomandibulaire. Ouais. Exactement, l'articulation de la mâchoire qui se trouve tout près des oreilles.
C'est pas qu'un distributeur de billets.
Exactement.
On va retrouver surtout ces causes-là. Et après, ce sera aussi en lien avec la posture du dos, la posture cervicale aussi, où la personne qui va avoir le cou trop projeté en avant va aussi avoir peut-être une mâchoire qui n'aura pas une bonne dynamique fonctionnelle.
Mmh. Vincent Mellet, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la mâchoire, d'ailleurs ?
On parle d'une bonne utilisation. C'est ce que Ibtissem disait. Mmh. C'est la fonction de la mâchoire qu'il faut évaluer. Le bruxisme, c'est ce qu'on appelle une parafonction, c'est-à-dire c'est une utilisation qui n'est pas l'utilisation principale. La mâchoire, elle est faite pour parler et pour manger, déglutir, mâcher. Mmh. En dehors de ça, c'est comme le coude, ouais. Comme l'avant-bras, comme les cervicales. Enfin, et encore les cervicales, c'est un mauvais exemple, je suis d'accord. Mais comme on va dire la main, c'est censé être au repos avec un tonus.
Relâché,
qui fait juste que suffisamment de tonus pour pas que ma mâchoire tombe comme dans Texavri, mais un tonus normal et ne pas avoir de tension outre mesure.
Et c'est oui.
Par exemple, quelqu'un qui mâche du chewing-gum toute la journée, c'est une parafonction. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire parce que ça engendre trop de tension musculaire au niveau des mâchoires. Ronger ses ongles, ronger un silo.
D'accord.
Alors, petit bémol, si ces gens-là n'ont pas de symptômes.
Oui.
On va pas leur dire que c'est ce qu'il faut pas faire.
Non, là je parle de patients dans ce cas-là.
Exactement. Voilà.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait mâcher les chewing-gums des deux côtés pour équilibrer ou?
Oui.
Ou qu'il y a une façon de mâcher les chewing-gums.
On va pas vous faire un cours de mâchage de chewing-gum.
adapté à la mâchoire.
Il n'y a pas de façon idéale de l'utiliser. Ce qu'on veut, c'est que ce soit souple, détendu, puissant et utilisé quand on en a besoin. Et que quand on n'en a pas besoin, que ce soit détendu.
Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'on se bloque la mâchoire soudainement ?
Plusieurs cas de figure.
Un grand bâillement, par exemple, quelqu'un qui baille de manière très ample et sa mâchoire part. Quelqu'un qui va croquer sur un croûton de pain qui est trop rigide peut se bloquer la mâchoire. Et peut-être aussi d'autres. Une chute, tout simplement, une chute qui peut créer un décalage au niveau articulaire, au niveau de la mâchoire.
C'est souvent un terrain fertile à l'apparition du blocage. En gros, tous ces mécanismes dont Ibtissem vient de parler. N'entraînerait pas de blocage sur un terrain qui serait un terrain pas anxieux, détendu, bien utilisé, etc. Oui. C'est souvent un terrain fertile de mauvaise utilisation, de tension, d'anxiété, qui fait que le petit truc... Vas-y.
Et j'ai eu plusieurs cas de patients avec le masque, d'ailleurs, pour revenir sur l'actualité, qui en fait ont ce réflexe d'aller tirer sur le masque avec la mâchoire et arrivent à se bloquer la mâchoire. C'est nouveau. C'est une nouvelle cause.
Les pathologies du masque. Allez, Ibtissem Belmadani et Vincent Mellet sont nos invités jusqu'à 10h ce matin.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, un duo ce matin, nous avons Ibtissem Belmadani qui est avec nous, masseur et kinésithérapeute libéral, et puis Vincent Mellet qui est masseur kinésithérapeute ostéopathe et animateur de la chaîne YouTube qui s'appelle La Chaîne Santé. Vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos et qui sont très utiles. On parlait de la mâchoire. Vincent, c'est compliqué de rester toute la journée la mâchoire bloquée.
Ah bah oui, c'est très compliqué parce que ça vous empêche de parler, ça vous empêche de manger.
De respirer correctement.
Ça vous fait mal. Ouais. Bref. C'est assez handicapant, comme on disait tout à l'heure.
Oui.
Mais vous avez une patiente qui s'est bloquée la mâchoire en éternuant, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Elle s'est empêchée d'ouvrir la bouche pour éternuer, peut-être avec son masque, hein, donc elle n'a pas voulu diffuser je ne sais quel postillon. Et en éternuant, clac, elle s'est bloquée la mâchoire sur le côté, et elle s'est retrouvée comme ça, à zozoter, et à incapacité à ouvrir, parce que des muscles ont retenu l'éternuement, et ça s'est bloqué. Mmh.
Et on peut se débloquer la mâchoire soi-même, en fait.
Bah déjà, la première chose à faire soi-même, c'est d'essayer de se détendre.
Oui.
Et de savoir que ce n'est pas grave. Et se détendre.
Mais est-ce qu'on peut se débloquer la mâchoire soi-même ?
Oui, c'est possible.
J'ai vu une très bonne vidéo que vous avez faite là-dessus.
Oui, c'est possible, à condition d'être bien guidé, en fait.
Oui.
D'avoir certaines connaissances. Et puis, ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, c'est d'écarter toutes les histoires de traumatismes, d'infections, de cancer, de problèmes vasculaires, de problèmes osseux, de toutes les choses médicales qu'il faut écarter. Parce que nous, en tant que kinésithérapeute, on reçoit les gens après qu'ils aient vu le médecin. Après qu'ils ont vu le médecin. Et donc, la plupart du temps, le médecin, lui, a déjà écarté toutes les pathologies. Et ça, c'est très important à préciser.
Alors, il y a une pathologie pour laquelle les gens consultent le plus, c'est le bruxisme. Là aussi, le bruxisme peut expliquer des maux de tête.
Oui.
Il peut être à l'origine.
Oui.
Ouais.
Oui, oui. Dans le sens où, déjà, le fait d'être en fermeture constante de la mâchoire, d'être en utilisation constante de ses muscles faciaux et sous juste en dessous du visage, notamment les muscles de la langue, tous ces muscles-là, créent une hyperpression en fait au niveau de l'articulation, créent une hyperpression au niveau de tout le système vasculo-nerveux de la zone crânio-faciale, et oui, peuvent créer du coup notamment les céphalées de tension.
Les gens consultent pour bruxisme, mais est-ce qu'ils ont conscience finalement
de souffrir de bruxisme ? Alors, c'est pas eux-mêmes qu'ils ont conscience au premier abord, c'est leur conjointe, famille, qui leur dit « bon, tu grinces des dents, tu t'en rends pas compte, etc. » soit en journée, soit de nuit, tu fais un bruit bizarre, et du coup, ils viennent pour ça. Ou sinon, ils se rendent compte, par exemple, quand ils ont fait un traitement orthodontique, et que derrière, ils ont une gouttière, que la gouttière s'est cassée. Ils se disent, mais c'est bizarre, moi je casse ma gouttière de moi-même. Ou par exemple, en ayant déjà consulté un dentiste ou un orthodontiste.
Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence de serrer trop fort les dents ?
Ben, ça peut avoir des conséquences sur les dents déjà.
Ouais.
et puis ça peut avoir des conséquences essentiellement de l'ordre de la douleur. C'est pas grave en soi. C'est gênant, c'est handicapant, c'est douloureux. C'est pas grave au sens dégénératif, ça ne va pas s'aggraver. C'est pas très drôle à vivre, mais c'est pas grave.
D'accord. Et dans ces cas-là, en quoi consiste la prise en charge ?
Se détendre.
Bah, il y a des traitements, voilà, c'est ce qu'on disait. Se détendre au sens large du terme. Physiquement, psychologiquement, socialement, son environnement, le niveau d'anxiété. Et c'est là où ça peut être très intéressant d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire, d'avoir peut-être un sophrologue. Un psychologue, un psychiatre, peu importe le type de psy, kinésithérapeute, ostéopathe,
stomato si nécessaire pour l'occlusion.
Exactement. Et j'allais conclure sur le fait que au-dessus de tout ça, ce sera dirigé, vérifié, coordonné, soit par le médecin généraliste, soit par le neurologue, soit par l'orthopédiste ou le rhumato.
Mais on connaît les causes finalement. Pourquoi les gens se mettent à avoir du bruxisme ou à souffrir de bruxisme?
Alors, certaines parafonctions préalables, notamment quand je parlais tout à l'heure de personnes qui rongent souvent, etc., qui ont rongé leurs ongles, etc., ont inconsciemment ce réflexe de chercher le contact dentaire. Ils ont besoin de ce contact dentaire pour parce que c'est ancré en eux, inconsciemment, et d'autres parce que ce contact dentaire leur permet d'avoir une forme de résistance aux événements de la vie, de supporter les événements, etc., de se tenir en fait, de se tenir quand le corps a envie de lâcher, a envie de repos, et qu'on se force à agir alors qu'on aurait besoin de se reposer.
On connaît les facteurs de risque, on connaît des... moi j'aime beaucoup ce qu'elle vient de dire et toute la symbolique qu'il y a autour. Effectivement, c'est principalement des facteurs de risque, l'anxiété, le mauvais apprentissage, la mauvaise compréhension de l'utilisation. Et par anxiété, on entend tout ce qui touche à l'anxiété et au stress. Et ça, des gens complètement détendus de la mâchoire ou détendus du dos ou des cervicales, on n'en croise pas des masses.
T'es détendu de la mâchoire, toi ?
Oui.
Est-ce qu'on demande aux gens s'ils sont... Comment on dit ? Ça a un nom d'être détendu de la mâchoire ?
Relâché, juste. Non, juste relâché.
Ouais.
Il n'y a pas de terme physiologique pour dire ça.
Il
n'y
a pas de terme pour parler de d'un bras ou d'une mâchoire qui est utilisée
pour... Ce qu'on appelle la position neutre anatomiquement.
Voilà. Ouais, mais c'est intéressant, vous dites que finalement, des gens qui sont détendus de la mâchoire, on n'en rencontre pas fréquemment.
On est un peu biaisé parce que nous, on s'occupe justement de recevoir que des gens en souffrance toute la journée.
Oui.
Donc on n'a pas une vraie représentation de la population.
Ouais.
On ne voit pas tous les gens qui vont bien.
Qui sont détendus de la mâchoire.
Voilà, exactement.
En fait, pour être efficace dans cette prise en charge tout autour de la maxillofaciale, pour éviter les maux de tête, etc., il aurait été intéressant que, dès le plus jeune âge, justement, on explique comment doit se positionner notre langue dans la bouche, comment, quelle est la bonne posture au niveau de la tête. C'est des choses, par exemple, que vont apprendre certains sportifs, les danseurs classiques, ce genre de choses, le bon port de tête, etc.
Port de tête, ouais.
Même le faciès chez des enfants qui vont faire du théâtre ou des voilà, ça va être dans le ludique dans l'enfance et sous une forme d'éducation qui va être transmise dès le plus jeune âge qu'on apprend ce type de relâchement en fait finalement et même d'avoir cette écoute de son corps pour savoir quand est-ce que je me sens crispé ou quand est-ce que je me sens bien ou pas bien et savoir agir en fonction de ça et pas sur-réagir plus tard parce qu'on aura laissé traîner.
C'est pas inné finalement. On ne pose pas sa langue à la bonne place.
Si, c'est inné chez le nourrisson. Il va savoir très bien positionner sa langue pour téter, à moins d'un problème. Poser sa langue au bon endroit aussi pour respirer par le nez également. Mais ça se perd par les facteurs environnementaux et ce qu'il y a autour de nous qui fait qu'on a tendance à se crisper.
Alors, Iptissem, vous vouliez parler des vertiges. Alors, les vertiges, quelles sont les causes des vertiges ?
Alors, il y en a beaucoup des causes des vertiges. Vous avez déjà tout ce qui va être pathologique, tout ce qui va être autour des artères, de la tension également. Après, vous aurez des vertiges. Chez nous, en tout cas, en tant que kinésithérapeute, ce qu'on peut traiter chez les patients qui ont des vertiges, ça va plus être tout ce qui est en lien avec des tensions musculaire, tout ce qui va être musculo-squelettique. Là, on aura un effet...
Et ça provoque des vertiges.
Oui,
c'est ça.
Oui,
c'est quoi un vertige pour tous ceux qui n'en ont pas eu ou qui pensent en avoir ?
Malheureusement, j'y connais rien du tout en vertige.
Ouais.
Donc, je te laisse...
Alors, vertige, ça va plus être en fait des personnes qui vont... pour définir ce que c'est qu'un vertige, c'est vous levez et vous avez la tête qui tourne, vous changez de position, vous vous asseyez, vous avez la tête qui tourne. Ça peut être une forme de vertige. Il y a des personnes qui ont des vertiges aussi, même en restant dans une seule position, qui par exemple allongées plat ventre, vont me dire j'ai la tête qui tourne, ça va pas, etc. Après, l'autre cause, c'est au niveau oreille interne, on a des cristaux. Et des petits cristaux qui nous permettent de nous positionner dans l'espace et savoir si au niveau proprioceptif où est-ce que je me situe. Est-ce que je suis debout? Est-ce que je suis assis? Est-ce que j'ai la tête tournée à droite? Est-ce que j'ai la tête tournée à gauche? C'est ces petits cristaux au niveau de l'oreille interne qui nous donnent cette information, pas que, mais notamment. Et quand on a ce type d'atteinte-là, à ce moment-là, on va voir l'ORL qui est lui le spécialiste pour après vous donner peut-être un traitement qui sera nécessaire pour soulager ça. Et si ce n'est pas ça, allez voir un kiné ou un autre spécialiste qui est spécialisé en rééducation oculocéphalogyre. Oculo, c'est les yeux. Et céphalogyre, c'est le mouvement de la tête, des cervicales. Et en fait, il faut recoordonner, en gros, la vision avec les mouvements que l'on fait dans l'espace.
Et communément, on appelle ça la rééducation vestibulaire.
Voilà.
Ouais, c'est ça. Mais c'est les kinés qui pratiquent ça, la rééducation vestibulaire.
Les kinés spécialisés.
Ouais.
Oui.
D'accord. Donc, il faut être spécialisé pour pouvoir prendre en charge les.
Oui, parce que ça demande un matériel particulier. Bon, après, le mieux c'est d'être spécialisé.
C'est une des rares spécialités en kiné où ceux qui ne sont pas spécialisés n'en font pas. Au sens où il y a plein de kinés qui se revendiquent spécialisés de quelque chose.
Ah oui.
Et en fait, ils ne sont pas spécialisés. Mais en tout cas, en kiné vestibulaire,
c'est technique en fait.
C'est tellement technique que.
On peut pas s'improviser
spécialiste ou se revendiquer spécialiste si on ne l'est pas. Quoi.
Les acouphènes, vous êtes spécialiste en acouphènes ou pas ?
Je suis spécialiste en acouphènes dans la mesure où tout le monde et personne est spécialiste en acouphènes parce que l'acouphène, c'est le plus gros mystère de l'histoire de la médecine, on ne sait pas ce que c'est.
Il y en a un autre dont on parlera tout à l'heure.
Oui.
Les recherches continuent autour de la médecine, il y a beaucoup
de mystères.
Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et en l'occurrence, les acouphènes, on sait historiquement que ce ne sont pas des stimuli auditifs réels. Par exemple, la souris qu'on entend à côté, le bruit de l'ordinateur ou le bruit des voitures derrière, etc. Ça, c'est mon cerveau qui intègre le son qui vient de l'extérieur. Les acouphènes, ce ne sont pas des sons qui viennent de l'extérieur. C'est un son qui est automatiquement généré par le cerveau en circuit fermé sans qu'il n'y ait de stimulus externe. Ça, c'est ce qu'on sait.
D'accord. Donc, en fait, ce sont des sons de l'intérieur et finalement, les autres ne peuvent pas les entendre.
Voilà. Vous allez en boîte de nuit. Alors, si vous vous souvenez de ce à quoi ça ressemble, parce que ça fait des années qu'on ne sait plus ce que c'est. Vous allez en boîte de nuit.
Ça fait des années, ça fait. Faut pas exagérer non plus.
J'ai l'impression que ça fait des décennies.
Ouais, non, ça va faire 15 mois. Vous avez passé l'âge, Vincent.
Oui, malheureusement. Il y a beaucoup de sons, beaucoup de musique. Et quand vous rentrez chez vous, il n'y a pas de bruit. Et vous entendez toujours un petit bruit comme ça dans votre oreille. Or, il n'y a pas de bruit à l'extérieur. Ça, ce sont des acouphènes. Ce sont des acouphènes qui ne sont pas pathologiques, qui sont normaux, qui sont liés à une espèce d'hypersensibilité de l'instant T parce que vous êtes allé en boîte de nuit. Les acouphènes qui sont des acouphènes pathologiques, c'est des acouphènes qui sont continus, qui durent des semaines, des mois, sans qu'on ne comprenne d'où ça vient, comment c'est apparu. Et c'est très rare que les acouphènes ne soient pas liés, c'est très rare, je n'ai pas de statistiques,
à
mais
une
c'est
cause
à une autre,
traumatique.
À une autre, à d'autres symptômes.
Ouais.
Voilà, à d'autres symptômes. Ça peut être tout et n'importe quoi.
C'est un trouble. En fait, les acouphènes sont des troubles associés à une pathologie ou à un syndrome. Notamment dans le syndrome du Saddam, dont on avait déjà parlé.
Le syndrome du Saddam, pour ceux qui n'étaient pas là ce jour-là. Alors, il y a une vidéo, mais le syndrome du Saddam...
C'est en fait un syndrome algo-dysfonctionnel de l'articulation de la mâchoire. C'est un trouble... Enfin, ça mixe un douleur et trouble de l'utilisation de la mâchoire.
Bon, on va revenir sur les acouphènes dans un instant, et on parlera des autres mystères de la médecine, la fibromyalgie. Voilà, maintenant, vous savez de plus en plus ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça recoupe ? Eh bien, restez avec nous jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Ibtissem Belmadani qui est avec nous, masseur kinésithérapeute, et Vincent Mellet, masseur kinésithérapeute, ostéopathe et animateur de la chaîne YouTube La Chaîne Santé, avec beaucoup de vidéos. On parlait de la mâchoire tout à l'heure, mais vous verrez comment se faire, comment se débloquer la mâchoire soi-même.
Et non se la faire craquer.
Et non se la faire craquer. Vous vous êtes fait craquer pendant la pause.
Oui.
Je crois que c'était une légende. Alors il y a deux écoles. Il y a les ostéos qui font craquer, les ostéos qui font pas craquer. Vous faites partie de ceux qui font craquer ou pas ?
Je fais partie de ceux qui ont plein d'outils, dont ce type de manipulation.
Mais c'est une légende que les os craquent. Ce n'est pas les os qui craquent.
Ah, ce ne sont pas les os qui craquent.
Non.
Non. Un os qui craque...
C'est mauvais signe.
Ça ne fait pas du tout le même bruit et ça fait mal.
Oui,
parce que ça veut dire qu'il y a une fracture. En l'occurrence, manuellement, je ne peux pas vous fracturer quoi que ce soit, moi.
D'accord. On peut se faire craquer les doigts.
On peut se faire craquer les doigts, ce sont les articulations, en fait.
Pas d'incidence, pas d'arthrose plus tard.
Non, ça, c'est une légende.
Il faut imaginer qu'en fait, le craquement, c'est juste un effet de décompression. C'est comme un tire-bouchon. Pouf, ça relâche l'articulation.
D'accord. Donc ?
Non, c'est pas nocif. Ce n'est utile, à savoir que ce n'est utile qu'à très court terme. Ça a une action neurophysiologique qui aurait tendance à diminuer... la douleur à très court terme. C'est pas un traitement à proprement parler, c'est juste une technique, un outil pour accéder à autre chose. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le mouvement, la fonction du mouvement et les bonnes habitudes, la bonne hygiène de vie, en fait.
On parlait des acouphènes tout à l'heure, mais les acouphènes, pour ceux qui les vivent et les supportent, c'est juste insupportable.
Ah oui.
Oui.
C'est la répercussion sur la vie est infernale pour les acouphènes.
Oui. Tout à fait. Il y a différents types d'acouphènes et différentes gravités d'acouphènes, mais quoi qu'il en soit, avoir un bourdonnement, un sifflement, un grincement, un crépissement dans l'oreille en continu, c'est oui, effectivement, de ce que disent les patients, c'est quelque chose d'invivable, surtout dans les moments où ils souhaiteraient, par exemple, être au repos. Encore quand la vie est active, qu'il y a du bruit autour, etc., ça peut être supportable, mais dans les moments de silence où ils aimeraient avoir justement cet apaisement, ils ne l'ont pas. Là, ça devient compliqué. Après, comme disait Vincent, il y a quand même beaucoup d'outils, notamment la sophrologie, la méditation, la relaxation, la respiration, la cohérence cardio-respiratoire, et tous les soins qui peuvent être prodigués pour soulager les acouphènes. Parce que le plus important, c'est vraiment d'en comprendre l'origine, sachant qu'il peut aussi avoir plusieurs origines à ces acouphènes. Mais dans certains cas, on a la possibilité de traiter et de soulager, soit par le massage, la détente, une bonne posture, soit par tous ces outils de relaxation, soit par des appareillages. À ce moment-là, il faut aller voir un audioprothésiste. Il y a certains appareillages qui peuvent vous envoyer des petits bruits blancs qui vont permettre de soulager.
Un bruit blanc, qu'est-ce que c'est, Ipsissem?
Ça peut être, par exemple, le bruissement des feuilles. Ça peut être un passage de train. Ça peut être l'aspirateur. C'est un bruit que vous allez entendre de manière continue, à très basse fréquence, de sorte à ce que ce bruit parasite et enfin recouvre l'acouphène que vous avez. Et au final, ça permet. C'est compliqué parce que neurologique, en fait,
c'est une rééducation.
En fait, il faut imaginer que le bruit que vous entendez a un certain niveau de fréquence. Et qu'en fait, avec cet appareil auditif, on va recouvrir ce bruit que vous entendez, de sorte que ça vienne finalement diminuer le bruit que vous entendez, et on espérait que ça l'efface complètement.
Mais il faut imaginer aussi que les gens qui vivent ça sont souvent très incompris, et puis comme on le disait tout à l'heure, on n'entend pas ce qu'ils entendent, donc ouais. Effectivement c'est un sentiment de solitude.
Il y a quand même des questionnaires et des inventaires de pour bilanter le type d'acouphène, pour vraiment décrire. Après, on retrouve quand même un panel très courant, donc notamment le bourdonnement, le sifflement, le crépitement. C'est les bruits qu'on entend, que les personnes peuvent entendre le plus souvent. Et de là, on peut après, en fonction d'autres troubles qui peuvent être associés, définir d'où vient l'acouphène et le traiter au mieux.
Bon, parmi les autres mystères de la médecine, la fibromyalgie. Maintenant, on parle du syndrome fibromyalgique. Est-ce que la fibromyalgie est en train de sortir de son statut de maladie imaginaire ou toujours pas ?
Je dirais que oui. Alors, attention, le problème de cette terminologie, c'est ce qu'on en met dedans. Parfois, il va y avoir certains diagnostics posés de personnes qu'on va dire fibromyalgiques, alors qu'en fait, ce n'est pas ça. C'est juste parce qu'on ne sait pas exactement définir leur syndrome douloureux qu'on va les mettre dans cette case-là. Maintenant, il y a des tests, il y a des questionnaires, il y a des manières de diagnostiquer ça, qui vont nous dire, bon, ok, si on a tel et tel et tel et tel critère, alors oui, on peut dire que c'est une fibromyalgie. Et encore, on pourrait dire. On peut pas vraiment, je dirais qu'on peut pas vraiment conclure ça complètement. Mais toujours est-il que l'important, c'est de donner des conseils à la personne pour pouvoir mieux vivre sa douleur, et surtout garder de l'autonomie, garder de l'activité au quotidien, plutôt que de rentrer dans le cercle vicieux de l'inactivité et finalement être complètement pris par la douleur.
Mais comment est-ce qu'on peut la définir, cette fibromyalgie ?
On la reconnaît parce que en fait ça va être des personnes chez qui un coup ça peut être le bras qui est douloureux, un coup ça peut être la tête, un coup ça peut être la jambe, un coup ça peut être, et en fait ça fait en gros des douleurs qui sont
diffuses
dans tout le dans tout le corps. Maintenant, comment la définir en précision? Tiens, vas-y.
Non, parce que là, Vincent vous a laissé très gentiment d'ailleurs vous exprimer, Ipsissem.
En théorie, la douleur, elle est là pour nous informer que quelque chose pourrait être soit abîmé dans notre corps, soit pourrait être sous-entendre que notre corps ou notre intégrité est en danger.
C'est un signal d'alerte.
En théorie, la douleur, elle apparaît à cause de ça. Ouais. C'est ça qu'elle signifie à notre conscience. Le problème avec la fibromyalgie, c'est que on est sur des douleurs qui sont diffuses, qui ne sont jamais aux mêmes endroits. Qui sont persistantes et qui n'évoquent pas de lésions anatomiques et qui n'évoquent pas de danger. Donc la réflexion la plus probable, c'est que c'est le circuit de la douleur, le circuit lui-même qui a un problème, qui est mal utilisé, mal compris et qui est dans un cercle vicieux dont tu parlais tout à l'heure.
Quand Vincent dit circuit, c'est que en fait anatomiquement et même physiologiquement, il y a une connexion entre, par exemple, je me blesse au niveau du bras. J'ai une blessure, pouf, un message est envoyé nerveusement jusqu'au cerveau, le cerveau réagit, le reste du corps réagit pour envoyer ce qui est nécessaire pour soulager cette douleur. Il y a un message d'alerte qui arrive et un message de réponse pour soulager.
Donc normalement, le corps...
C'est une boucle.
Mais le corps réagit et répond à la douleur.
Finalement. Voilà, on n'a pas tous le même seuil d'acceptation de la douleur. Certaines personnes vont, par exemple, s'entailler vraiment très profondément avant de dire « aïe, ça me fait mal ». D'autres, à peine une petite griffure, ils vont avoir vraiment une sensation de douleur atroce. Mmh. Là où ça peut être intéressant chez la personne qui a une fibromyalgie de travailler sur ce seuil de douleur, c'est que comme elle est douloureuse partout, c'est nécessaire pour elle d'apprendre à justement augmenter sa capacité d'acceptabilité de la douleur et surtout oui en fait être en activité parce que l'activité permet à ce circuit de douleur de se remettre en place correctement.
Ce qui change, c'est qu'on ne dit plus aux gens c'est dans votre tête.
Bah, malheureusement, on leur dit encore, oui. Mais si on leur dit c'est dans votre tête, dans le sens je veux me débarrasser du problème parce que je sais pas trop de ce dont ça parle, sous-entendu c'est psychologique, sous-entendu c'est uniquement psychologique.
C'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Voilà,
malheureusement, la plupart du temps, c'est ça. Sous-entendu, vous l'imaginez. Voilà, c'est comme ça que les gens le comprennent. Hein, malheureusement, c'est ça qui témoigne au cabinet. Ou si c'est dans votre tête, parce que je vais vous expliquer ce qu'Ibtissam vient de nous expliquer, c'est-à-dire le circuit de la douleur, son rôle, les zones qui sont affectées, le fait que la douleur c'est une bonne recette, enfin en tout cas c'est une recette qui fait interagir à la fois la psychologie, l'utilisation, l'hygiène de vie, le sommeil, le machin, le truc, qui fait intervenir énormément de choses. Si c'est pour leur expliquer ça, on peut leur dire c'est dans votre tête. Parce qu'on leur propose ça pour leur expliquer ce qu'on peut faire pour réintégrer dans le cerveau et dans le corps le processus de fatigue, de mouvement agréable, la douleur qui est une courbature qui n'est pas du tout la même qu'une douleur de fibromyalgie, la douleur qui est un étirement qui n'est pas du tout la même chose, qui est un étirement actif, la douleur de l'effort, la douleur de... Enfin, tout plein de différentes douleurs qui nous permettent de réintégrer et de mieux séquencer dans la tête ce que pourrait être un message douloureux par rapport au message douloureux diffus de la fibromyalgie.
Et c'est là que la rééducation est intéressante parce qu'en fait, quand on dit rééducation, c'est réapprendre, se rééduquer, en fait, apprendre à justement séquencer et différencier tous ces types de douleurs. Parce qu'en fait, une personne qui a eu très mal pendant un certain temps et de manière très intense, effectivement, ne sait plus quelle est la différence entre je fais un effort, j'ai une courbature, j'ai une difficulté, je me tiens debout toute la journée, bah, c'est effectivement fatigant. Quelle est la différence entre fatigue, effort musculaire quotidien standard et vraiment douleur inflammatoire ou
d'accord, etc. Et donc là il y a des questionnaires qui précisent l'endroit de la douleur, le type de la douleur, la durée
de la douleur, la fréquence,
qui vous permettent de préciser justement votre douleur.
Et ce qui est compliqué avec les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, c'est qu'en fait elles en ont tellement marre de parler de leur douleur que même définir exactement avec des mots, décrire avec des mots quel est leur type de douleur, c'est complexe. Ça ne peut pas se faire sur un... En tout cas, pour ma part, ça ne se fait pas sur une seule séance. Ça va se faire justement en créant cette relation de confiance, d'écoute, vraiment d'écoute active auprès du patient, pour que finalement, au-delà de ce qu'il dit, voir ce que son corps dit, en fait. Tout ce qui est le non-verbal.
Vincent Mellet, est-ce que vous avez vu apparaître des nouvelles pathologies avec le télétravail et le confinement au cabinet ou pas?
Moi, j'ai l'impression que, d'une manière générale, c'est l'anxiété qui est de plus en plus présente. Et comme l'anxiété, c'est un des facteurs de risque d'à peu près toutes les pathologies, malheureusement, j'ai l'impression que c'est surtout l'anxiété en fait, qui a augmenté.
L'anxiété. Oui, il y a l'anxiété, il y a tout ce qui est les troubles musculo-squelettiques du fait de la sédentarité. Parce que les gens ne se sont pas déplacés, les gens ne sont pas sortis, les gens sont restés assis pendant 7 à 10 heures chez eux au fauteuil.
Donc, ou avachi même.
Ou avachi. De la bobologie type traumatologie, genre la personne elle a repris la course du jour au lendemain sans passer par un coach, sans passer par un kiné, etc. Et se fait une blessure bêtement, entorse de cheville, etc. Plus couramment que précédemment, oui.
Mais c'est l'anxiété, finalement, qui arrive en tête, même chez le kiné, c'est pour vous dire. Mais ce qu'on a bien compris ce matin, c'est que finalement, l'anxiété, c'est la mère de beaucoup des maux que vous traitez et soignez dans vos cabinets.
Et au-delà de ça, c'est en fait le fait de ne pas être à l'écoute de son corps qui va générer quelconque trouble, que ce soit ce dont on a parlé aujourd'hui, les maux de tête ou autre pathologie. Ce qu'on peut conseiller aux patients, c'est vraiment d'avoir un temps de scan sur soi pour se demander où est-ce que ça va, où est-ce que ça va pas, où est-ce que je me sens en équilibre, où est-ce que je me sens pas, et ne pas laisser traîner parce qu'en fait, ça va avoir des effets, quoi qu'il en soit, sur les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir. Soyez à l'écoute de votre corps.
Bien, merci Ibtissem, Vincent Mellet. Donc, on vous suit sur votre chaîne YouTube, la chaîne Santé. Voilà, vous savez déjà de quoi vous allez parler prochainement. Les marronniers de l'été.
Ça, c'est une bonne question.
Avoir des ventres plats pour aller sur la plage.
Je pense que je voudrais parler de l'importance des examens complémentaires, des IRM, et l'anxiété que peuvent engendrer les examens complémentaires. Je vais passer une IRM, qu'est-ce que je vais y trouver? Je vais passer une radio, qu'est-ce que je vais y trouver? Oh, j'ai de l'arthrose, c'est une catastrophe, etc. Je pense que c'est très important, ça.
Bien, revenez nous en parler. Merci Ibtissem, merci Vincent. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et passez une très belle journée. Santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.